Nous en sommes aux premiers mots d'accompagnement de la saison d'automne 2022 au Centre Zen de Montréal. Et avant de passer aux mots d'accompagnement, j'aimerais dire quelques mots au sujet du jardin. Cet été, plusieurs parmi vous avaient travaillé à réembellir le jardin du centre. Votre projet en est à ses tout débuts et il se poursuivra sans doute pendant des années, tant notre jardin est grand. Depuis les tout débuts du centre, tant de gens ont travaillé dans ce jardin. Et vous le savez sans doute, c'est là que les cendres de M. Lowe ont été dispersées. Par le travail patient que vous avez accompli, vous continuez le travail de toutes ces personnes. Prendre soin du jardin, c'est comme leur rendre le sourire et faire danser notre vieux maître. Merci mille fois. Le maître zen vietnamien, Thich Nhat Hanh, a souvent dit que la sangha, c'est-à-dire la communauté, est un jardin rempli de toutes sortes d'arbres et de fleurs. Quand nous pouvons regarder les autres et nous-mêmes comme des fleurs et des arbres magnifiques, nous avons une chance de voir grandir notre compréhension et notre amour les uns envers les autres. Une fleur peut s'épanouir au début du printemps et une autre à la fin de l'été. Tel arbre peut produire beaucoup de fruits et tel autre être apprécié pour l'ombre qu'il fournit. Pas une plante n'est supérieure, inférieure ou égale à une autre. De même, chacun des membres de la communauté a des qualités qui lui sont propres. Certes, nous avons tous des zones d'ombre, des faiblesses, mais si nous pouvons les voir comme un moyen de grandir, alors nous pouvons apprendre à vivre ensemble en harmonie. Notre pratique, c'est de voir que nous sommes une fleur ou un arbre, mais que nous sommes aussi le jardin tout entier. Tout est relié. Dans une série récente de Dharma Talk qu'il a donnée à l'occasion d'une retraite de 5 jours en Angleterre, Jeff Shore a abordé les thèmes du grand doute et du contentement. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, Jeff Shore est un enseignant zen d'origine américaine qui vit au Japon depuis plus de 40 ans. Il a pratiqué et étudié pendant 25 ans auprès du maître zen Keido Fukushima au monastère Tofukuji à Kyoto. Il est le successeur laïque de son maître et il anime depuis plus de 20 ans des retraites dans plusieurs pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord, auprès d'une communauté internationale qui grandit sans cesse. Jeff a animé jusqu'ici 3 retraites au Centre Zen de Montréal. Et si tout va bien, il reviendra nous visiter en juin 2023. Donc, dans les Dharma Talks qu'il a donné en Angleterre, Jeff parle du contentement, non pas pour désigner la satisfaction passagère d'un désir sensuel, par exemple, le plaisir ressenti suite à un bon repas, mais plutôt pour parler de la joie profonde qui peut apparaître dans notre pratique lorsque l'esprit s'apaise et s'ouvre enfin à ce qui est. Jeff a présenté ces 2 thèmes, le grand doute et le contentement, comme étant 2 voies possibles que peut emprunter la pratique du zen. J'aimerais aujourd'hui reprendre les propos de Jeff et les commenter à la lumière des écrits de M. Lowe. Mais commençons par clarifier un peu les choses. De quoi parle-t-on lorsqu'il est question du grand doute dans la pratique du zen? le maître chinois Bochan, qui vécut de 1575 à 1630, a consacré un livre au grand doute. Ce livre s'intitule « Exhortation à ceux qui n'éveillent pas le grand doute en eux-mêmes ». J'ai déjà cité ce texte précédemment dans un autre mot d'accompagnement, mais je crois qu'il vaut la peine de le reprendre ici. Dans l'introduction à son livre, Maître Bochan écrit « Lorsque l'on pratique le zen, il est essentiel d'éveiller le doute. Qu'est-ce donc que le doute? En voici un exemple. Lorsque vous venez au monde, d'où venez-vous? Il est impossible de ne pas rester dans le doute à ce sujet. Lorsque vous mourrez, où irez-vous? Encore ici, impossible de ne pas douter. Puisque vous ne pouvez percer cette barrière de la vie et mort, et ce malgré tous vos efforts, le doute qui vous habite grandit sous vos yeux même, et vous ne pouvez pas le repousser ou vous en détourner. Éventuellement, vous le traverserez. Et vous verrez à ce moment que les notions de vie et de mort sont superflues et inutiles. Le grand doute est donc un questionnement, et il s'enracine souvent dans une sorte de malaise et de perplexité qui semble jaillir de la vie elle-même. Ici et maintenant, posez-vous la question. D'où venez-vous? Et lorsque vous mourrez, où irez-vous? Quelle que soit la ou les réponses que vous donniez à ces questions, croyez-vous vraiment que nos pauvres mots puissent mettre fin à notre perplexité devant notre propre existence? D'où venez-vous vraiment? Et où irez-vous lorsque vous mourrez? Qui êtes-vous vraiment? Évidemment, ce questionnement, ce grand doute, doit être le vôtre. Il doit être sincère. À quoi bon tenter vainement de l'emprunter à quelqu'un d'autre ou d'adopter des questions qui ne viennent pas de vous? Dans l'un de ses textes, M. Lou écrit « Est-ce votre question? Vous posez-vous vraiment cette question ou le faites-vous parce que vous pratiquez le zen? Ne perdez pas votre temps à poser les questions de quelqu'un d'autre. » Et à quelqu'un qui lui demandait ce qu'il devait faire lorsque le Koan avec lequel il travaillait cessait d'être une question sincère, Albert répondit « Vous devez suivre la respiration et permettre à la question de revenir. » La question se présente de plusieurs manières différentes. Le plus souvent, elle vient d'abord comme une nervosité, une insatisfaction, une anxiété ou un sentiment général de malaise. Le Koan peut être comparé à une flèche, la tige de la flèche et le malaise que nous éprouvons, la pointe et la question, par exemple, qui ou que suis-je? Les deux sont nécessaires. La pratique la moins productive et celle qui consiste à s'asseoir avec une question intellectuelle en lui cherchant une réponse. Dans le zen, l'on dit souvent que paradoxalement, seuls les gens qui ont une grande foi peuvent vraiment douter. La foi, c'est la conviction qui ne s'exprime pas toujours en mots, que nous sommes sur la bonne voie et que nous sommes effectivement capables de travailler avec la confusion et les souffrances de la vie et de les transcender. Le grand doute, écrit M. Lou, commence par le doute de soi et du fondement sur lequel repose tout notre être, ce qui consiste à douter de nos convictions les plus chères et de tout ce qui nous semble le plus évident. Et comme nous le dit Maître Bochan, ce questionnement qui ébranle tout, est au cœur du Zen. Les collections de koan Zen, le Mouman Kan et le recueil de la falaise verte, le Ikigan Roku, sont issus d'un tel questionnement. Par la pratique assidue du Zen, ce questionnement en vient à s'approfondir et s'élargit peu à peu, jusqu'à contenir tout ce qui est. Travailler sur un koan, c'est travailler sur soi-même. C'est ainsi que la pratique que nous faisons sur la natte se poursuit dans notre vie. Si c'est la joie, alors l'on pratique avec le koan de la joie. Si c'est la douleur, alors l'on est présent au koan de la douleur. Si c'est la tristesse, alors la tristesse devient notre question. Qu'est-ce que c'est? Qui ressent tout cela? Qui voit tout cela? Notre vie entière s'ouvre à son propre mystère. Mais le questionnement n'est pas la seule voie du Zen. Dans les Dharma Talks qu'il a offert en Angleterre, Jeff évoque aussi la voie du contentement. Et il en donne l'exemple suivant, tiré de l'histoire de Shakyamuni Bouddha. Après avoir quitté le palais de son père et s'être imposé à lui-même de très sévères austérités qui l'amenèrent au seuil de la mort, le Bouddha comprit que ce n'était pas là le chemin à suivre pour se libérer de la souffrance. Et c'est à ce moment qu'un souvenir d'enfance lui revint. La légende raconte alors que, sur le point de mourir, Siddhartha se souvint d'un moment où il avait regardé son père tracer le premier sillon à l'époque des labours. À ce moment-là, il était devenu un avec la souffrance et les labeurs du monde. Se rappelant cette expérience et comment elle avait ouvert la porte à une profonde conscience de l'unité, il résolut de cesser sa pratique ascétique, laquelle ne pouvait mener qu'à la mort, et de retrouver à nouveau cette unité. Dans son livre « Se connaître, c'est s'oublier », M. Lowe commente longuement cette histoire. Il écrit, et je cite, l'éveil avant l'éveil, la saveur soudaine et imprévue de la liberté qui se pose un moment et s'envole ensuite comme un oiseau effarouché. Le nombre de gens qui ont goûté à cette saveur est étonnant. Elle vient de toutes les façons, durant une soirée de vacances, en écoutant de la musique, en devenant amoureux, dans un moment de peine intense, pendant une maladie, dans un instant de pitié profonde. Elle vient et elle part. Elle est si familière, et pourtant, sa fraîcheur est à vous couper le souffle. L'instant d'un éclair, on regarde à travers une fissure de l'existence. Mais c'est suffisant. Le temps viendra où cette rencontre mûrira, et tel un aimant, agira comme un guide. Cet émerveillement soudain, cet éveil avant l'éveil, voilà l'écho du contentement dont parle Jeff. Philippe Caplot, l'auteur des trois piliers du Zen, avec qui M. Lowe a longtemps étudié, en parle avec ces mots. L'esprit éveillé est un secret que tous connaissent. Chacun l'a touché. Chacun, dans le secret de son propre cœur, le connaît pour l'avoir entrevu, serait-ce même vaguement. Chacun de nous a connu cette paix et a habité pour un court moment, une seconde peut-être seulement, une sorte d'éternité d'où le soi est absent et où règne une unité absolue. Dans le cœur secret de chacun, il y a ce secret au cœur de tous les autres secrets. Cet émerveillement, lorsqu'il nous touche, éveille en nous une foi profonde, sans contenu, une foi qui se passe de mots et qui n'en a pas besoin. Nous savons dès lors, de façon très intime, qu'au-delà des circonstances changeantes de notre vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, une grande et belle liberté nous attend déjà. Et comme le dit encore Albert, de plus en plus, nous nous tournons dans sa direction, jusqu'à ce qu'enfin, nous soyons emportés par une force irrésistible à la recherche de l'éveil. Le grand doute et le contentement, le questionnement et l'émerveillement, ce sont là les voies du zen. Certains d'entre nous seront toujours plus enclins au questionnement, alors que d'autres se tourneront spontanément vers l'émerveillement qui les a déjà touchés et a éveillé en eux une foi profonde. Certains seront portés par une question fondamentale, une sorte de koan naturel qui ne leur laissera pas de repos, et d'autres adopteront l'un ou l'autre des koans traditionnels. D'autres encore s'ouvriront plus naturellement à être un avec la respiration et évolueront vers la pratique de Shikan Taza. Mais quel que soit notre chemin, nous devons le poursuivre jusqu'au bout. À quoi bon creuser des puits ici et là sans jamais atteindre l'eau? Un jour ou l'autre, il nous faut creuser en un seul endroit, jusqu'à ce que l'eau en jaillisse. Nous n'avons aucun autre choix. Être présent, ne pas revendiquer la pratique pour soi-même, ne pas s'envoler dans des états d'extase, cela aussi demande du courage, de l'endurance, de la non-résistance. Être capable simplement de respirer, inspirer et expirer, ne pas en faire toute une histoire. C'est la pratique et c'est la félicité, nous dit encore M. Lowe. N'attendez surtout pas cela de qui que ce soit d'autre. Serait-il même un enseignant ou une enseignante? Il ou elle peut bien sûr vous inspirer, vous guider et vous éviter des errements inutiles, mais jamais personne ne pourra parcourir votre chemin ou vous épargner l'effort de le faire. Le Bouddha lui-même disait, « Voici le nirvana. Voici la voie menant au nirvana. Et me voici comme instructeur de la voie. Pourtant, certains de mes disciples, conseillés et formés par moi, atteignent le nirvana, tandis que d'autres ne l'atteigne pas. Qu'est-ce que je fais dans tout cela? Je suis celui qui montre la voie. Ultimement, le questionnement, ce grand doute qui monte en nous, dès que l'on consent à s'ouvrir à ce qui est, et le contentement dont parle Jeff, ne sont pas des voies séparées dans la pratique du zen. On peut les distinguer l'un de l'autre et en parler comme si elles étaient fondamentalement différentes. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut les séparer. Chacun de nous a connu, timidement pour certains peut-être, plus clairement pour d'autres, cela importe peu vraiment, ces petits éveils, ces avant-goûts de plénitude et de liberté dont parle M. Lowe, et qui ne sont rattachés à rien. Chacun les a vus surgir dans sa vie un peu au hasard. Et la joie qui les a accompagnés, ou encore l'étonnement étrange et bouleversant qu'ils ont suscité en nous nous ont amenés jusqu'ici aujourd'hui, dans ce zendo, sur cette natte. Qu'est-ce donc que cette joie profonde? Qu'est-ce qui s'est éveillé en nous ce jour-là? Que cherchons-nous vraiment derrière toutes les questions qui montent en nous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le Bouddha nous dit encore, tous ceux et celles qui, maintenant ou après mon départ, seront une île pour eux-mêmes, seront un refuge pour eux-mêmes, ne prendront pour eux-mêmes aucun autre refuge que de voir la vérité comme une île, de voir la vérité comme un refuge, ne chercheront refuge auprès d'aucun autre qu'eux-mêmes. Ce sont eux qui, parmi mes disciples, atteindront l'autre rive. Mais ils doivent eux-mêmes faire l'effort. Et un jour, l'on voit bien que le questionnement, ce grand doute qui monte en nous, dès que l'on consent à s'ouvrir à ce qui est, et le contentement, cette joie profonde qui nous guide, proviennent l'un et l'autre de la même source. Jeff nous dit encore, il n'y a rien de plus simple. Nous n'avons pas à être quoi que ce soit. Lorsqu'enfin, nous lâchons prise et revenons à la source, nous découvrons ce qui a toujours été là avec nous, en tant que nous. Et l'on mesure alors la profondeur illimitée de notre propre humanité. Voyez-vous, lorsque l'on commence à pratiquer le zen, on cherche des réponses. Après un certain temps, si l'on persévère, on trouve des questions.